la fierté de Montréal. Se bâtit autour du sport. Le soccer, sport de tous les Montréalais. Ensemble avec le CF Montréal. L'après-match.
Rebonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur les ondes de BPM Sport pour cet après-match. L'après-match du CF Montréal qui a joué contre Nashville et qui a fait match nul, un but partout. On vous le rappelle, les buteurs, Dante Sili à la 9e minute sur un magnifique coup franc. Et c'est Sturridge qui a répondu pour ramener les deux équipes à égalité à la 82e minute sur une tête piquée, croisée, magnifique également. Je suis toujours en compagnie de Sidney Fauveau qui m'accompagne à l'analyse pour ce dernier match du CF Montréal à domicile avant le dernier match de la saison qui aura lieu le 18 octobre à Cincinnati. Sid, tu nous as donné pas mal de chiffres clés durant la rencontre, certains éloquents. Comment tu arrives à analyser ce match nul, un but partout ? Est-ce que finalement c'est pas très très bien, est-ce que le CF Montréal n'est pas très bien loti finalement ?
Oui, avec ce... Le sentiment que, hormis le coup franc, on n'a pas vu grand-chose de la part de Montréal. Mais j'estime que cette action de Raimé a été normal, aurait dû être mieux négociée par les liés espagnols. Et après le but...
Refusé, oui.
Refusé. Sur l'ensemble du match, on parle tout de même de 20 tentatives de tir du côté de la Juve contre 6. Face pour Montréal, il y a un écart significatif entre les deux équipes qui ne sont pas dans les mêmes dynamiques, mais à domicile on aurait peut-être aimé voir un autre visage de la part de Montréal qui n'était pas en capacité véritablement d'être plus haut sur le terrain, d'être plus dans le dernier tiers, de conclure ses occasions par des frappes. Et même si je trouve que on était assez courageux et intéressant dans la transition rapide en première mi-temps, on a totalement pris l'eau en deuxième. Et malheureusement, là, pour le tableau d'Apple, là, nous met un XG à 2,36 contre 1,48. Voilà. Dans les buts attendus, c'est assez clair qu'il y avait un vainqueur ce soir. Donc, Montréal s'en tire avec un point, ce qui leur permet tout de même de garder la face devant leurs partisans. Mais c'est à l'image de la saison. Très compliqué qu'ils viennent de vivre.
Alors, on l'a vu, hein, le CF Montréal a décidé, ou en tout cas a laissé le ballon à Nashville en termes de possession également. Dante Sili, qui a été très très en vue au début du match avec cette fabuleuse passe pour Jaime, puis ce magnifique coup franc. Est-ce que finalement, le fait de laisser le ballon à Nashville quand tu es à domicile, tu perds potentiellement l'impact de ce type de joueur qui en plus de ça avait l'air très très en jambes aujourd'hui. Tu lui demandes beaucoup de défendre, on l'a vu, hein, il était en marquage individuel sur Lovitz. Vu que Nashville était mené, Lovitz était de plus en plus offensif, donc à contrario, défensif.
C'est sûr que tu perds en énergie et en lucidité, mais du côté de Sili, c'est surtout qu'en fait on n'arrive pas à le trouver. Au-delà du fait qu'il était peut-être potentiellement fatigué, je crois qu'on n'arrivait surtout pas à le trouver. Donc c'est assez problématique à ce sujet. Mais bon, fait partie un peu des corrections tactiques à apporter côté montréalais.
Alors je pense qu'un joueur s'approche peut-être. On est en direct avec vous, hein, chers auditeurs et auditrices. On va voir si on peut éventuellement capter un joueur pour faire une entrevue terrain à la suite de ce match nul du CF Montréal face à Nashville. Un but partout au stade Saputo. Voilà les joueurs aussi qui distribuent leur maillot en ce dernier match. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui arrive. Sid, j'aimerais continuer avec toi. On avait ciblé un joueur dans l'avant-match qui se voyait offrir sa troisième titularisation, c'était Bodé Hidalgo. Tu l'as mentionné aussi, c'est lui qui est à l'initiative en tout cas du but qui a été refusé, où on le voit très offensif. il a, on dirait, bien assimilé aussi ce travail défensif un petit peu individuel de la part de, qui est demandé de la part du staff. Plus les semaines passent, plus on sent que c'est plus qu'une doublure hein, pour David Bougaï.
Ah oui, c'est plus qu'une doublure pour David Bougaï, mais dans le sens qu'il a leur niveau peut se discuter. Mais est-ce que c'est un titulaire en puissance dans une équipe qui aspire à mieux? La question pour moi reste ouverte. On parle de du côté de 90 minutes pleines, de 6 duels disputés, simplement 3 remportés, quand même 8 pertes de balles, une faute commise, 32 touches et simplement 68% de passes réussies. C'est très peu, Julien, pour Baudet Dalgo. Donc la question reste entière concernant le latéral américain.
Dernière question aussi, avant de mettre une pause publicitaire, avant de se rendre à la conférence de presse. On a vu un changement qui nous a tous étonnés à la 75e minute. C'est Ibrahim Sounoussi qui a remplacé Prince Owusu. Est-ce que peut-être tu as une idée du pourquoi, du comment Sounoussi arrive comme ça à l'avant-dernier match de la saison, à rentrer pour les 15 dernières minutes d'un match dans lequel le CF Morel souffrait mais était en avance d'un but?
Du côté de Sounoussi, Ibrahim, je pense qu'il y a la volonté de montrer un joueur qui a été vraiment écarté et dont on doit trouver une porte de sortie, alors qu'il a tout de même un long contrat. Et je pense véritablement que dans l'idée, c'est une forme de vitrine pour le joueur. Mais je vois pas autre chose que la blessure de Owen Graham Roach cette semaine à l'entraînement, qui explique le fait que.
Alors, on a Jalen Neal, je crois, hein, sur le bord du terrain. On va essayer de voir si il nous entend. Si, vas-y.
On a un joueur sur le bord du terrain, on pense. Mais on sait pas si.
C'est Neil.
Janel, est-ce que tu. Do you hear us?
Yes, I hear you.
Yeah, thank you, brother. That was a tough second half. Maybe explain a bit what was the. Why was the case?
I think, you know, we just couldn't find a way to keep the ball in the second half. We were getting stuck in our half a lot of the half. We found that a lot of corners succeeded, a lot of throw-ins in our half conceded, and we just couldn't find a way to get the ball into their half and to keep it there. You know, it was really frustrating. But you know, overall, I thought we put in a very good shift to get a result today. But we certainly deserved better, and you know, we could have played a lot much better, especially in that second half, to secure the W.
But You showed a lot of composure and I say grit to defend during the whole game. But in the offensive aspect, how hard was it to be a bit higher on the pitch?
I thought in the first half we found a lot of success with that. We were finding ways to get behind the back line. We were finding ways to hurt them in the attack. But then, yeah, like I said, in the second half, we just couldn't find that. You know, I don't know what it came up to, but it's something we really have to discuss, because, you know, it's not a way to go out like that when it's the last home game of the season. You know, when, you know, we just want to win. That's the mindset we have. You know, we don't care that we're not going into playoffs. You know, we want to win. So we all need to be in a collective mindset within winning. So. I don't know, it's something we have to discuss, but we have to finish games off much better when we're up 1-0.
On the positive side, talking about this 1-0, where were you when Dante hit the ball?
When Dante
hit the ball on his free kick, what were your vision?
I was in the exact same position I saw his last free kick goal in, right? Right behind him. I had a feeling, because it was the exact, it looked like the exact same spot he hit his free kick last game. Yeah. So when I saw him lining up for it, I was almost positive he was going to make it. And it was like the exact same hit. So, I mean, I'm just super proud of him. You know, he's a great player, and he's been showing this season the qualities that he has. So I'm super proud of him.
And of course, we are proud of him, and we're happy for you. You're gaining more minutes, more playing times, and getting back to your peak form. So that's a positive also. Thank you, Jalen, for doing this, and have a great rest of your day.
Thank you very much. You too. Bye-bye.
C'était Jalen Neal, le défenseur central du CF Montréal. On va discuter juste un petit peu de ses propos aussi avant de partir en pause. Mais il a dit, voilà, en deuxième mi-temps, ils ont beaucoup subi, beaucoup de corners, comme on l'a vu concéder. Ils ont fait du mieux possible pour garder ce 1-0. Mais Nashville a aussi mis beaucoup plus de pression. Et finalement, est monté aussi en régime. Contrairement à la première mi-temps, où ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils avaient réussi à jouer le bloc haut, justement, parce que tu lui as posé la question de savoir comment, justement, on aurait pu essayer de remonter le bloc et de ne plus subir. Il s'est dit très fier pour Dante Cilli, qui est un super joueur qui a beaucoup apporté cette saison. Il était en plein dans l'axe du coup franc, d'ailleurs, comme la semaine passée. Comment tu as trouvé les propos de Jalen Neal, qui est certainement le meilleur défenseur aujourd'hui?
Oui, lucide. Comme on dit, on a vu le même match.
Voilà. Là, pour le coup, c'est bien.
Donc, ça montre que je pense qu'il y a beaucoup d'introspection en même temps qu'il, lui, dans l'action. Hein, nous, on est dans le commentaire, ça n'a absolument rien à voir. Mais du côté de Neal, on a aussi ce que j'aime beaucoup, c'est que malgré le contexte, parce qu'on on va le rappeler, avant-dernier match de l'année, dernier match à domicile, on sent qu'il y a une volonté de placer ce match-là comme si c'était un match de milieu de saison. On dit on va essayer de trouver des solutions, on va travailler sur ça, etc., pour comprendre pourquoi du comment on n'a pas réussi à faire mieux sur cette deuxième mi-temps notamment. Donc il y a beaucoup de projections sur le futur. Tu me diras que à ce stade-ci maintenant de la compétition, tu devrais t'attendre à voir la meilleure version possible de l'équipe. Et même si globalement c'est mieux, mais tu pars de tellement bas que bon, tu pouvais que monter, c'est compliqué de voir cette équipe-là devant ses partisans dans le dernier match de l'année, de pas nécessairement pouvoir faire mieux que cette deuxième mi-temps où, je rappelle encore une fois, on est à aucun tir tenté. Je sais même pas si on va considérer certains centres déviés comme des frappes, mais pour cette deuxième mi-temps était anémique d'un point de vue offensif côté montréalais, et de ce que je vois du moins du côté d'une application type SofaScore notamment, on considère qu'il y a eu zéro tir tenté dans la deuxième mi-temps.
À zéro tir tenté.
Je ne parle même pas de tir cadré. Vraiment, ça on est ailleurs. Vraiment, que les 6 tirs de Montréal ont tous été en première mi-temps. Et puis, j'ai tendance à te dire que jusqu'à la 80e, je suis d'accord. Et peut-être qu'il y a eu même sur le corner obtenu à la toute fin.
C'était pas un tir. Non, c'est sûr.
Donc, ce zéro, il pique. Et c'est à l'image de toutes les difficultés montréalaise dans cette saison 2025.
Sid, merci beaucoup pour cette analyse. Merci aussi à Jalen Neal de s'être arrêté à nos micros. Nous, on va faire une petite pause et puis on va revenir bien entendu dans cet après-match pour continuer à dérouler l'analyse avec Sidney Faureau et aller en conférence de presse avec David Sauvry qui supplée Marco Donadel aujourd'hui sur le banc de touche. A tout de suite sur BPM Sport.
Partenaire radio officiel du CF Montréal. Vous écoutez l'après-match du CF Montréal. BPM Sport.
Vous êtes toujours sur l'après-match en direct sur BPM Sport, l'après-match du CF Montréal qui a joué contre Nashville. Score de parité, un but partout. C'est Dante Cilli qui avait ouvert le score à la 9e minute sur un coup franc magistral. Et on a tenu, on y a cru hein, pour le CF Montréal, mais à la 82e minute, Surridge est venu d'une tête croisée, piquée, crucifiée. Thomas Gilliers dans les buts pour ramener le score à un but partout. Et je le répète, hein, mesdames et messieurs, si vous voulez vous joindre à nous durant cet après-match, 514-790-0919, on veut vous entendre, peut-être pour un bilan, peut-être pour nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé, forcément, pas sur ce match-là, mais sur la saison aussi. On est là avec vous, hein, c'est le dernier match à domicile au stade de Saputo pour le CF Montréal, puis le dernier match aura lieu le 18 octobre prochain pour le Decision Day. On va être avec vous là, pour cet après-match, jusqu'à la conférence. On va aller jusqu'à la conférence, accompagner le coach David Sauvry qui supplée Marco Donadel, qui est suspendu en ce match aujourd'hui. Sid, on va continuer un petit peu à dérouler. On avait Jalen Neal qui est très très lucide hein, sur ce match, sur ce qu'ils ont pu faire, sur aussi la solidarité qu'ils ont montré défensivement. Et toi, tu l'as dit, c'est beau de le revoir à son pic de forme. Il est revenu au niveau qui était le sien en début de saison. Est-ce que c'est pas aussi ce qu'il y a de plus rassurant aujourd'hui d'avoir un Jalen Neal fort dans les duels et fort sûr de ses forces?
Alors, moi, je suis vraiment content pour lui et tous les efforts qu'il a consentis afin de revenir au jeu. Et on espère pour lui qu'il tranquillement revienne à un niveau qui est celui qu'on avait perçu lorsque l'acquisition a été faite depuis le LA Galaxy. Néanmoins, c'est l'an prochain, c'est tout de même loin côté pour le CF Montréal. Donc, je ne sais pas à quel point on est capable de se projeter d'une année à l'autre. J'aurais aimé avoir un peu plus longtemps cette paire Neal Campbell. Bon, le mercato, on a décidé autrement. Mais c'est assurément un joueur sur lequel il faudra compter dans l'avenir. Avec dans quel rôle, quel statut, quelle place dans la hiérarchie, c'est à voir. Est-ce que lui peut être le leader de ta défense? Trop tôt peut-être. Mais Neal et Morales ont montré tout de même des flashs vraiment intéressants. C'est pour cela que je leur souhaite de revenir en force. Donc l'un qui soigne sa pubalgie, l'autre qui maintenant enchaîne un petit peu les matchs depuis la fin de sa blessure. Je leur souhaite vraiment de pouvoir aborder le début de saison en forme l'an prochain pour vraiment se battre. Peut-être avec un autre défenseur expérimenté là, de 27 ans et plus qui viendrait dans le mix.
Justement, pour continuer, il nous a un petit peu, je pense, donné un début de réponse sur le fait justement d'avoir été acculé en seconde mi-temps. Lui, il a mis ça sur le fait que aussi Nashville a haussé un petit peu le niveau de jeu parce qu'eux, ils devaient aller chercher les 3 points pour accéder à ce top 4 qui donne certainement un peu plus de chance puisqu'on reçoit lors des playoffs. Mais est-ce que toi, tu as une explication comme ça ou pourquoi le CF Montréal a finalement plus joué et a trop reculé? On le sait, hein, une équipe qui recule trop, elle s'expose. Et c'est finalement arrivé à la 99e minute, mais tu l'as dit, ça aurait pu arriver à la 65e, à la 70e minute. Comment est-ce que c'est psychologique, tu penses, le fait de reculer?
Non, il y a quand même un rapport de force qui a été remporté par Nashville. Nashville avait la possession en première période, mais possession qu'on a quand même qualifiée de stérile parce que on n'arrivait pas à piquer et à faire des différences, à accélérer dans le dernier tiers, faire le centre qu'il fallait. On n'attaquait pas avec suffisamment de monde, mais surtout, je pense que d'un point de vue le bloc médian montréalais travaillait bien avec Escobar, sur lequel on a fait un focus à la mi-temps. Le Longstaff, le Doury, ça travaillait bien. Silly qui revenait très très bas aussi pour compenser avec Bode Hidalgo. Et là, on faisait un travail qui permettait quand même à Montréal de récupérer le ballon autour de la zone centrale et après d'exploser en contre comme on l'a vu. Par la suite, les changements, comme tu l'avais justement noté durant notre diffusion, les changements du côté de Nashville ont fait une grosse différence. Tout de suite, ont été plus justes, plus impactants, plus incisifs. Et même à ça, je dis plus juste, mais j'ai reproché à Nashville dans le dernier geste d'être vraiment en deçà de leur standard habituel, parce que ils ont atteint un nombre de buts record cette année pour la franchise. Par contre, pour tout ce qui était d'amener l'occasion et d'amener le ballon dans la zone de danger, alors là, c'était le jour et la nuit chez Nashville. Donc Nashville, tactiquement, s'est ajusté. Montréal était peut-être pris entre deux idées. Oui, tu mènes, tu ne veux pas t'exposer non plus. Tu sais à quel point cette victoire est importante pour tes partisans à domicile. Je ne sais pas si c'est purement psychologique, parce qu'il y a tout de même, je pense, une équipe en face qui était force de proposition. Mais en même temps... Côté montréalais, plus ça avançait et plus ça semblait assez inéluctable que Nashville allait marquer ce but.
Si on est à l'heure du bilan, même si c'est que l'avant-dernier match, hein, le dernier match aura lieu le 18 octobre.
Dans 2 semaines, on aura le temps de faire le bilan, toi et moi.
Non, je ne vais pas faire le bilan, mais est-ce que tu aurais, parce que tu as parlé peut-être en disant... tiens, peut-être que Jalen Neal et Morales devront se batailler avec un défenseur de 27 ans. Est-ce que tu cibles des chantiers?
Peut-être tout est. Non, mais il faut à un moment donné remettre l'église au centre du village. C'est les derniers de la ligue. Tout est en chantier. On va pas.
On a peut-être notre numéro 9 qui.
Tout est en chantier. Tout, absolument tout. Il faut remettre absolument tout en question. Et c'est les derniers. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le voir. Sinon, on se trompe. Sinon, ce sera encore des solutions qui ne seront pas adaptées, adéquates et à trop chercher du positif. Là où il n'y en a pas, mais que fait le 14e, que fait le 13e, que fait le 12e, que fait le 11e, si le 15e est tout content de toutes sortes d'éléments, entraînement et continue de courir, à faire les efforts, j'espère. Ils sont payés pour ça, non? Donc, il ne faut pas se tromper. C'est un énorme chantier, cette reconstruction. Et David Sauvry.
Est en conférence de presse. On va partir tout de suite en conférence de presse avec le coach.
Oui, quelque chose comme un message d'espoir aux partisans, montrer que l'équipe progresse, l'équipe continue de bien travailler. Comment tu as trouvé la performance malgré la déception du match aujourd'hui?
C'était pas une bonne performance, c'est la réalité. Du moins, c'était pas une bonne performance par rapport à ce qu'on voulait faire. Si je vous avais dit hier, on va rester low block et on va essayer de garder ce résultat, peut-être que je vous aurais dit, c'est intéressant, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Donc, à partir du moment où c'est pas du tout ce qu'on veut faire, forcément, c'est pas une bonne performance. Donc, on est déçus parce qu'on espérait faire beaucoup mieux sans le ballon et avec le ballon. Donc c'est sûr que non, c'était pas bon.
Qu'est-ce que Nashville a fait peut-être à partir de la deuxième demi qui vous a un petit peu mis dans le pétrin
En fait, c'est une accumulation de pas mal de choses. Je pense qu'on démarre plutôt bien, où on arrive à être sur le game plan qu'on veut, c'est-à-dire essayer de défendre plus tôt. Après, je pense qu'on n'a pas été capable d'être agressif dans nos 1 contre 1, ce qui doit faire la différence pour essayer de récupérer les ballons haut. On a quand même la capacité d'ouvrir le score, ce qui fait qu'on se dit, oh, ok, on est à 1-0. Et après, on se dit, on va essayer de rentrer à la mi-temps en étant un petit peu plus conservatif. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de garder un plus 1 derrière, en se disant, non, c'est pas pour descendre si bas, mais c'est surtout pour être capable d'avoir une sécurité, parce qu'on voyait qu'ils commençaient à ouvrir les espaces, à nous bouger de partout et à isoler des joueurs avec des balles qui étaient ouvertes et jouer des ballons dans la profondeur avec des joueurs qui sont très forts en 1 contre 1. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, ok, on est 1-0, on va essayer de rentrer à la mi-temps 1-0 pour essayer d'ajuster certaines choses. Pas dans le but de rester bas toute la deuxième mi-temps et de subir, mais dans le but de repartir en deuxième pour être capable d'être plus agressif, de se créer beaucoup plus d'occasions. Et on ne l'a pas fait, on n'a pas trouvé les solutions malgré les ajustements. Et après, le problème, c'est aussi à partir du moment où tu te mets juste à défendre et que quand tu as le ballon, tu n'en prends pas soin. Quand je dis pas prendre soin, c'est reconnaître les moments. Est-ce que c'est le moment de le garder? Est-ce que c'est le moment d'accélérer? Parce qu'il y avait des moments aussi, je pense qu'on aurait pu accélérer un petit peu le jeu et créer un peu plus. Et ben, tu te retrouves dans des situations à défendre bas. Et quand tu défends bas contre ce type d'équipe, ben, tu n'as pas le droit de faire une erreur. Et on le fait sur un centre d'extérieur de la surface où on perd le marquage et on se fait punir. Ils reviennent à 1-1 là-dessus. Et après, c'est compliqué. Alors, il y a aussi ce deuxième but qui peut peut-être nous mettre à l'abri. Mais je ne sais pas, je n'ai pas revu la situation, donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Mais non, ça n'a pas été assez... En fait, on n'a pas été capable de remonter notre bloc, de remonter la ligne. Et ça passe par, oui, les idées défensives, mais ça passe par la capacité à être bon avec le ballon. Et on ne l'a pas été aujourd'hui.
Hi, David. When you see that happening and you see that, you know, your team is just too low, what changes did you as a staff try to take besides the substitutions? What changes are you trying to make to kind of force your team to step up again?
So like I said, when you play man-oriented and aggressive pressing the way we want to do it, you need energy, you need to win the 1v1 battle. And at some point, we realized pretty quick, we don't have the energy today. And if you don't have the energy and you don't have the intensity to do it, you have to find a way to, let's say, organize a safety. So that was our idea, to bring 2v1 against Surridge and dropping Loturi against Mukhtar and having Prince working a little bit more, but not in the idea. Like I said, the adjustment was, okay, we have Prince working on the center back, but every time we can step up to re-engage the other center back and go again in a man-to-man and push them back and press them again, we wanted to do it, but we could not because they increased the distance between us. We let more and more open ball. They start to roll out. So the distance between the player to step up was not possible. So they push us to be low. And the thing is, in another end, we were leading 1-0. So at this moment, the guys on the pitch, and I can understand them, like, okay, maybe we don't have the energy to go forward, to defend forward, but we have still the result. So it's not a perfect show for the fans, but you need to realize that I'm not saying that they didn't work, because when you defend low block, you work a lot, but they didn't work in the game plan we wanted because the opposition and because we could not do what we wanted to do.
C'est positif, mais quand même Dante Cilli qui marque sur coup franc pour un deuxième match de suite. On n'a pas souvent vu à Montréal des joueurs capables d'être toujours dangereux comme ça sur coup franc. Est-ce que c'est le genre de choses aussi que vous aviez décelé à l'entraînement chez lui? Est-ce que c'est il fait souvent ça ou c'est juste deux coups de génie en deux matchs?
Non, c'est des... il y a beaucoup de joueurs qui travaillent après l'entraînement sur du travail individuel, que ce soit pour les attaquants du travail offensif, que ce soit certains joueurs sur les coups de pied arrêtés. Donc on sait, il le travaille, il est pro là-dessus pour se dire j'ai de la qualité pour les tirer. Donc il l'a travaillé pendant la saison et ça paye. Donc c'est positif pour lui, c'est positif pour nous parce que marquer des buts sur coup de pied arrêté, c'est toujours bon.
David, deux questions. C'était l'histoire de la saison, l'incapacité de prendre les devants. Et là, vous l'avez fait. On a l'impression que ça a changé peut-être le scénario d'un point de vue peut-être psychologique sur votre hauteur de placement ou sur vos intentions. Est-ce que tu peux venir sur ça, le fait de prendre l'avantage aussi rapidement et faire du pouce sur la question d'Elias, mais en français, si possible, sur quels sont, toi, tes moyens et tes ressorts lorsque tu vois se dessiner, finalement, cette dynamique de la deuxième mi-temps, selon les changements, dans les consignes, dans l'attitude, qu'est-ce que tu peux faire?
Mais comme je l'ai dit, le plan de match initial, c'est on va aller les chercher, on va aller être très agressif et on va y aller pour récupérer des ballons hauts et quand on a le ballon, leur faire mal avec le ballon. À partir du début du match, on l'a fait, mais tout de suite, on a senti qu'on n'était pas capable de le faire. Dans le sens que, dans les 1 contre 1 un peu loin, un peu entre deux, pas qu'ils y croyaient pas, mais on s'est dit tout de suite sur le banc, est-ce qu'on a les jambes aujourd'hui pour le faire? Est-ce qu'on a la capacité pour le faire? Et malgré ça, après je vais revenir à la question, je vais essayer de ne pas me perdre dans mes propos, malgré ça, on arrive à marquer. Et là, on se dit, OK, il faut qu'on soit smart, parce qu'à un moment donné, OK, on veut pousser, mais si on n'y arrive pas, il faut quand même qu'on ait des plans B. Le plan B, c'était comme j'ai dit, c'est de dire, OK, Prince va travailler un petit peu plus sur les deux centraux. On va redescendre, au lieu d'avoir nos deux centraux sur Mukhtar et Surridge, on va avoir Victor qui va amener un plus un pour permettre d'être en deux contre un aux centraux. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on peut faire repartir Escobar sur un central et l'autoris sur un milieu de terrain, on va le faire pour repasser en man-to-man. On n'a pas réussi. Donc c'est ça l'échec en fait, c'est cette capacité de dire ok on redescend un peu la ligne mais pour repartir après, c'était ça le plan de match, mais on arrive quand même à la mi-temps à 1-0 avec un expected goal de Nashville de 0.08, donc on se dit ok ils ont le ballon mais pour l'instant ça va, ils créent pas trop, ok mais on peut pas rester comme ça quand même encore pendant 45 minutes, donc on a encore une fois organisé un autre scénario avec l'idée de les pousser côté et à un moment donné, quand on les pousse à côté, augmenter la pression pour repartir encore une fois et défendre en avançant et aussi de prendre soin du ballon. Et on n'a pas réussi à le faire. Les changements, on aurait pu faire mieux aussi, je pense, peut-être dans le timing, peut-être dans les profils. Je ne sais pas, il faut que je revoie le match encore une fois aussi sur ça. Mais finalement, on n'a pas réussi à reprendre un momentum dans la deuxième mi-temps. C'est la réalité. Là. On vivait sur le 1-0 qu'on avait et c'était d'essayer de le garder jusqu'à la fin. Mais c'est pas ce qu'on voulait, encore une fois. Donc c'est pour ça que c'est décevant.
Pourquoi les changements momentum de Ivan Jaime et Holger Escobar? Et après ces changements, Nashville a pris plus les contrôles de ballon, deuxième mi-temps.
Bah parce que eux, ils font rentrer le latéral droit, pardon, j'ai oublié son nom, qui se met à pousser plutôt fort. Et on se dit, bah, aujourd'hui, il va falloir qu'on réponde en étant capable de le gérer. Et on se dit que Alex est un profil qui est capable de nous aider beaucoup plus dans ce registre-là, et aussi un profil en contre-attaque qui est rapide et qui peut être intéressant dans la profondeur. Et peut-être que oui, tu garderas aimé, tu as plus de solutions aussi, parce que techniquement, c'est un joueur, on sait qu'il peut faire de différence. Mais encore une fois, c'est toujours. Si on arrive à 1-0 ce soir, on se dit ok, on n'a pas été bon, mais les changements nous ont permis de garder le score. Et là, on se fait égaliser à 1-1, et là, on dit bah, fallait garder Raimé sur le terrain. Effectivement. Donc donc mes changements n'ont pas été bons sur le match, c'est la réalité. Si on revient à 1-1.
Sur Siri. Au camp d'entraînement, on apprenait à connaître, il commençait à frapper des corners. Puis je me souviens, tu m'avais dit que tu pensais que c'était un jeune qui pourrait réserver de belles surprises, montrer de belles choses cette année. Comment tu décrirais sa saison dans l'ensemble? Il t'a 9 buts, presque 2 400 minutes. Là.
Je pense que c'est un bon point, pas que pour Dante, mais je vais déjà commencer avec Dante. Mais Dante, on a vu que sur cette saison, il a beaucoup progressé. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Pas juste en termes de stats, mais quand vous avez un joueur qui est capable de répéter et jouer beaucoup de matchs comme il l'a fait. Et Dante, on lui demande beaucoup d'efforts. On lui demande, si ton fullback, il y va, tu y vas. Tu défends avec lui beaucoup de fois. Donc c'est un joueur qui a été capable de nous aider à défendre, de nous aider à répéter les efforts et d'être influent. Offensivement, je sais qu'à un moment donné dans la saison, il a été critiqué par sa nonchalance. C'est des choses que moi, j'avais pas vraiment compris parce que nous, l'avoir tous les jours avec nous à l'entraînement, j'étais pas forcément en accord. Et ben, on le voit sur la fin de saison, il continue de progresser, ses stats augmentent, il est influent, il marque sur coup de pied arrêté, il marque dans le jeu. Il a encore une énorme marge de progression. Après, je pense que le motif de satisfaction, et je sais que c'est pas assez, mais si moi je parle juste d'un point de vue technique, on va dire. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé cette année dans cet effectif-là. Et ça, on le sait, moi j'en suis persuadé. Mais je suis d'accord qu'encore une fois, le nombre de victoires qu'on a à domicile, le nombre de points qu'on a à domicile, c'est pas assez pour les supporters. Et ça, on en est bien conscient. Et encore une fois, ce soir, on est déçu de la performance qu'on a donnée parce que les gars ont travaillé fort, mais pas de la manière dont on voulait le faire. Merci.
C'était David Sauvry, l'entraîneur adjoint du CF Montréal, qui avait officié cet après-midi en lieu et place de Marco Donadel, qui avait été suspendu pour trop de cartons jaunes accumulés. Alors là, il a été, comme à son habitude, très très lucide, très sincère. Il a dit que c'était pas une belle performance, pas une bonne performance. Hein, cet après-midi que son équipe avait livré, il voulait pas du tout jouer en bloc bas. Il s'était dit ça, hein, et on doit faire mieux avec ou sans le ballon d'ailleurs. Hein, il l'a dit aujourd'hui, ça n'a pas été un bon match. On n'a pas été agressif dans les 1 contre 1. L'idée effectivement de base, hein, c'était d'aller chercher haut cette équipe de Nashville, d'être agressif. C'est ce qu'ils ont fait au début, mais même. Au début, ils se sont retournés avec le staff et ils se sont dit que on dirait que l'équipe n'avait pas les jambes pour faire ça tout au long du match. Et puis arrive ce but sur coup franc, donc ils ont dû mettre en place des plans B. Donc il y a eu des réajustements tactiques, notamment Owosu qui était vraiment sur les deux défenseurs centraux de Nashville, Lautori qui était un petit peu plus bas. Et en fait, l'équipe de Montréal devait exploser à la récupération du ballon. Et voilà, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas été capables finalement de remonter la ligne défensive, et ce qui fait qu'ils ont été très très acculés par Nashville. Donc voilà, il a dit que aujourd'hui, même s'il y a eu des efforts fournis, c'était pas du tout le bon scénario qui avait été mis en place par son équipe. Pour Dante Cilli, il a dit qu'il était très très content pour le coup franc, mais qu'il le travaillait à chacun des entraînements. Donc c'est bon pour lui, c'est bon pour l'équipe. Et puis il s'est aussi arrêté sur Dante Cilli en montrant, puisqu'on lui a, il a été posé la question, qui est un joueur qui a fait beaucoup, qui a beaucoup joué, et qu'est-ce qu'il en pensait. Il dit qu'il a beaucoup progressé en termes de stats, en termes d'efforts aussi. Il rappelle, hein, que Dante Cilli est un des joueurs à qui on demande beaucoup sur le terrain de répéter les efforts. Et malgré ça, il influence quand même offensivement les résultats. Voilà, après, il dit que certainement sur ce match-là, il aurait pu être peut-être un peu plus faire pertinent sur les changements, peut-être les timings, les profils. On lui a posé la question pourquoi la sortie de Ivan Jaime peut-être un peu tôt. Il a expliqué que voilà, le défenseur droit qui était rentré Najar du côté de Nashville avait un profil très très offensif et qu'il pensait que Alexander Guboglo pouvait le freiner et puis ensuite repartir vers l'avant comme contre-attaquant. Donc voilà, et puis il a pris aussi sa part de responsabilité, mais il a aussi dit voilà, que son équipe n'avait pas joué le plan de match qui lui avait été donné par le staff technique. Donc voilà, un petit peu d'amertume sur ce un but partout, mais même pas sur le score en tant que tel, mais plus sur ce que son équipe a produit aujourd'hui. Sid est revenu à mes côtés. Sid, j'aimerais bien entendu te remercier énormément pour les différents matchs qu'on a pu faire ensemble, pour ces avant-matchs, pour ces débriefings de mi-temps, pour ces après-matchs. Merci énormément. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être sur la conférence de presse et ce qu'a dit le coach?
Sur la conférence de presse, je trouve qu'on a vu un David Sauvry très, très lucide et très intéressant. Il parlait foot et c'est toujours très agréable d'entendre les raisonnements derrière. Avec beaucoup de précision et d'humilité de sa part sur ce que son équipe pouvait faire de mieux sur cette rencontre. On ne va pas non plus occulter le fait qu'ils étaient en face d'une formation qui, même si elle n'occupe que le 9e rang de l'Est, est tout de même très rompue avec beaucoup d'expérience et de joueurs de qualité qui nous ont démontré ça avec une envie d'aller chercher vraiment des points et d'inverser la tendance dont on discutait sur les matchs sur la route. Donc voilà, on a senti que chez David Sauvry il y avait la volonté de bien faire, mais tout simplement une incapacité de son groupe, de son effectif et de lui-même de vraiment rentrer de plein pied dans cette deuxième mi-temps et réussir à montrer leur meilleur visage.
C'est ça. En tout cas, avant le dernier match, le Decision Day qui aura lieu le 18 octobre prochain sur les ondes de BPM Sport où le CF Montréal ira à Cincinnati. Le CF Montréal est 12e de la conférence Est avec 28 points. Donc, pas dernier, mais il reste encore des matchs. DC United a été défait sur son terrain par Charlotte. Et puis, Toronto jouera également ce soir. Je vais bien sûr remercier Jacob qui était avec nous à la mise en onde au stade et PO qui est à la mise en onde au studio parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille hein, pour vous rendre la meilleure qualité possible sur les avant-matchs, pendant le match et sur les après-matchs. Donc voilà, grande saison en tout cas au stade Saputo, puis on terminera la saison dans les locaux de BPM Sport pour le dernier match de la saison face à Cincinnati le 18 octobre. Sid, je te laisse le mot de la fin.
Oui, je voudrais quand même nous remercier à tous parce qu'on a réussi 17 avant-matchs YouTube avec Jacob, Olivier aussi qui a fait partie de l'aventure et c'est pas facile. Je pense que ça a été apprécié et puis on remercie beaucoup à tous ceux qui nous ont écrit, ont réagi, sont passés nous voir dans les coursives pour ce tour de force. On réalise pas une heure d'avant-match par vos commentateurs, c'est rare dans ce qu'on peut offrir comme contenu sportif et on l'a fait avec des invités, avec du contenu, c'était riche, varié et je pense que on doit prendre le temps parfois de prendre conscience de cela. Donc bravo à toute l'équipe derrière qui a réussi à produire ces avant-matchs YouTube, vidéo d'une heure avant chaque rencontre à domicile. Donc c'est comme c'est la dernière à domicile, je tiens à en parler. On vous donnera le véritable mot de la fin lorsque ce sera la fin de saison, mais sur cet aspect particulier de notre couverture, ça marque un clap de fin et je voudrais dire merci et un grand bravo à toute l'équipe, PO aussi, des Alexis et tout le monde qui ont un jour ou l'autre été à la régie, dans les Comrex et au travers de tous les fils et toutes les patentes qui me permettent de mettre ce contenu à votre disposition, évidemment, que ce soit Alexandre Coupal ou Freddy Amegavi, Julien et Jasmin qui m'ont accompagné dans cette aventure de l'avant-match. Voilà, un grand merci à tout le monde, un grand bravo. Puis voilà, c'était important de le dire.
Mais t'as raison.
Ce sera mon mot de la fin. Et à nos auditeurs, à ceux qui ont joué le jeu durant l'année, c'était pas une année facile sur les lignes ouvertes. Les circuits ont été moins pleins qu'à l'habitude, ce qui est un peu à l'image de la difficulté de cette saison. Mais merci pour tous ceux qui ont pris le temps d'appeler, d'échanger et de faire de ces après-matchs un rendez-vous unique dans notre paysage. Donc merci à tout le monde pour cela, et il reste un dernier match, donc voilà, il y aura d'autres choses qu'on dira quand ce sera la dernière de la saison. Là, tout simplement, c'est une bonne tape sur l'épaule et un grand remerciement à toute l'équipe et tout le staff derrière ces avant-matchs vidéo. Et merci à vous, auditeurs, d'avoir joué le jeu dans les lignes ouvertes sur la plupart des matchs. Ce n'en est pas un aujourd'hui, mais vous l'avez fait sur l'ensemble des matchs. Merci beaucoup.
On se retrouvera donc le 18 octobre prochain avec cette horaire inhabituelle. Il est bientôt 17h30. On vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve donc pour le dernier match de la saison face à Cincinnati à 18h le 18 octobre sur les ondes de BPM Sport. Bonne semaine à vous.